bien, bonjour à tous. Vous êtes sur Fréquence Paris Pluriel. Aujourd'hui, un nouveau volet donc de l'émission Mode d'emploi, animée par aujourd'hui par la Fondation Copernic, et ça comme tous les quatrièmes vendredis du mois. Eh bien, aujourd'hui, nous avons choisi de centrer le thème de l'émission sur la question de l'indépendance de la presse. Alors, c'est vrai que cette question, on avait pensé à cette émission il y a quelque temps déjà, et l'actualité nous a rattrapés, si j'ose dire, puisque dernièrement, il y a simplement 3 jours de cela, est paru dans Le Monde une tribune de différents intellectuels, artistes, politiques et autres, justement sur cette question de l'indépendance de la presse, et qui propose de lancer un média citoyen. On y reviendra certainement lors du débat. En tous les cas, on voit bien que cette question est tout à fait d'actualité, même si malheureusement la question de l'indépendance de la presse, elle est posée depuis maintenant de nombreuses décennies. Alors, quoi dire pour démarrer cette émission? D'abord, peut-être que la presse structure très fondamentalement les différents sujets politiques, économiques et autres. On sait aujourd'hui que 10 millions de personnes sont chaque jour devant le journal télévisé du soir. 5 millions, c'est le tirage des journaux chaque année, et avec évidemment à côté de la presse papier, à côté de la télévision dont on parlera tout à l'heure, eh bien on a évidemment l'apparition d'Internet qui a profondément bouleversé la question de la communication et en particulier l'information depuis ces dernières années. Pourtant, on voit aujourd'hui que l'audience de la presse papier en particulier et très largement de ça, de ce qu'on a pu connaître il y a maintenant plusieurs décennies, mais beaucoup plus grave peut-être, du point de vue justement de la démocratie et du point de vue de l'indépendance de la presse. Eh bien, le dernier rapport de Reporters sans frontières, qui a été livré il y a peu de temps de cela, en 2017, montrait que la France arrive en 39e position du classement mondial de la liberté en matière de presse. Donc on voit que c'est un sujet qui est tout à fait important, et on le sait aussi puisqu'on a maintenant depuis quelque temps, à côté du désaveu du politique, on voit qu'il y a aussi quelque part un désaveu des journalistes, un désaveu de la presse en général, qui est souvent pour lequel la population voit des accointances tout à fait importantes entre milieu de la presse, milieu économique et milieu politique. C'est un petit peu ça dont on veut discuter aujourd'hui avec nos invités. Alors, pour cela, on a 2 personnes qui ont accepté de nous rejoindre aujourd'hui pour discuter cette question. La première, c'est Denis Souchon, qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour, Denis.
Bonjour, rebonjour.
Et nous aurons tout à l'heure par téléphone, donc il n'est pas encore actuellement avec nous, mais qu'il le sera tout à l'heure, Denis Siffer, qui est directeur de publication de Politis. Voilà un petit peu pour cette heure que nous allons passer ensemble. Peut-être que l'idée, c'est globalement d'essayer de discuter autour de 3 thèmes. Le premier, qui pourrait être essayer un petit peu de resituer la question de l'indépendance de la presse dans sa dimension historique, le mot était un peu fort, mais en tous les cas, voilà, essayer de voir un petit peu comment cette dépendance, puisqu'aujourd'hui on peut évidemment parler de dépendance de la presse au milieu économique et politique, comment elle s'est construite finalement, comment elle est arrivée au fil des ans. On pourrait repartir des ordonnances du Conseil national de résistance qui postulait directement cette besoin de liberté de la presse, et on sait que après la guerre, après la guerre, il y a eu un foisonnement de journaux qui aujourd'hui sont réduits à portions congrues. Donc on essaiera d'avoir une petite discussion autour de ce rétrécissement de la presse papier en particulier. Et puis dans un deuxième temps, on essaiera de discuter autour de la dépendance de la presse au milieu économique et politique. Et puis dans un troisième temps, on essaiera de voir comment peut-être essayer de penser une autre presse plus libre. Et comme je le disais tout à l'heure en introduction, le débat lancé par cette tribune dans Le Monde vient tout à fait fort à propos. Voilà un petit peu pour cette heure qu'on va passer ensemble. Denis, peut-être que la bonne manière de démarrer, c'est peut-être de te demander un petit peu de nous présenter Acrimed, puisque tout le monde ne connaît peut-être pas Acrimed, qui pourtant est une institution maintenant qui est vieille de 20 ans et qui se fixe justement, et c'est ça l'intérêt de ta présence aujourd'hui avec nous, c'est qu'Acrimed est véritablement une association, je crois que vous êtes sous forme associative, hein, qui se fixe comme objectif justement cette critique des médias. Je m'arrête là et je te passe la parole.
Oui, donc Acrimed, qui est l'acronyme de Action Critique Média, association née en 96, donc en effet un peu plus de 20 ans, et les origines de sa naissance sont importantes parce que ça permet de comprendre la nécessité d'une critique des médias. C'est cette origine, ça, elle vient du traitement médiatique des manifestations de novembre-décembre 95 contre le plan Juppé de destruction de la sécurité sociale et de réforme des régimes de retraite. Et elle a été suscitée par un sentiment de colère, d'indignation face déjà à la manière dont étaient traitées les manifestations, les arguments des grévistes. On parlait déjà de prise d'otage, des salariés qui veulent aller travailler par les gréviculteurs. On tronquait les propos des grévistes qui s'exprimaient dans les médias, ce qui faisait perdre tout sens à l'objet de leurs revendications. On avait des plateaux d'experts déjà, puisque les experts étaient déjà actifs, qui n'étaient pas pluralistes du tout. Et quand il y avait quelqu'un qui défendait le point de vue des grévistes, il était noyé autour de personnes très homogènes entre elles et avec une identité de vue telle que, du coup, cette personne était complètement isolée et la fameuse culture du, entre guillemets, débat n'était qu'un mot. Donc, cette indignation a généré cette création d'Acrimed qui est une association carrefour, pour reprendre les termes de ses fondateurs, c'est-à-dire carrefour entre non seulement des professionnels des médias, des professionnels de l'analyse sociologique, mais aussi tout simplement ce qu'on peut appeler des usagers des médias, des gens qui sont exposés à différentes formes de médias et qui sont très critiques par rapport à la manière dont les choses sont présentées. Le contexte de la création d'Acrimed, je pense qu'il faut l'élargir pour bien voir que à cette époque-là, il y a eu tout un courant de critique des médias qui s'est mis en place et qui dure et qui quelque part, de par le fait que maintenant on parle de plus en plus de critique des médias, a remporté quelques victoires. C'est en 1996-97 l'apparition du livre de Serge Halimi, Les nouveaux chiens de garde, aux éditions Raison d'agir. Donc ce livre-là qui reprenait le titre d'un bouquin de Paul Nizan, Les chiens de garde et Les nouveaux chiens de garde, ce sont bien tous ces éditocrates qui en permanence sont dans différents médias, presse écrite, presse radio, presse télévisée ou sur Internet, et qui ont un discours qui explique ou se disant expliquer ou faisant la pédagogie de, bien sûr, les nécessaires réformes. Là, en ce moment, c'est le code du travail. Il y a quelques années, c'était la réforme des retraites. Dans quelques mois, ça sera à nouveau la réforme des retraites et ainsi de suite. Il y a eu aussi la parution du livre de Pierre Bourdieu sur la télévision qui montrait que sous couvert d'objectivité, tout un ensemble de personnes qui prétendent nous dire ce qu'est le monde de manière très impartiale, en fait, opèrent de véritables constructions en montrant certaines parties de manière très intéressée et biaisée et en occultant bien d'autres parties, ce qui fait que dans un journal télévisé, par exemple, à une certaine époque, on pouvait avoir 25 minutes sur la mort d'une princesse suite à un accident de voiture et 30 secondes sur des plans sociaux concernant 500 personnes. Voilà, c'est ce genre de choses qu'il faut avoir en tête. Donc, il y a eu ce livre sur la télévision. Il y a eu les documentaires de Pierre Carle, par exemple, Pouvoir pas vu, qui montre que Pierre Carle avait été, dans les années 90, contacté par une chaîne de télévision qui se voulait à l'avant-garde de l'impertinence, Canal+. Et en fait, Pierre Karl montrait les dispositifs de censure qui existaient sur Canal+, tout simplement par le fait qu'on lui avait... On l'avait contacté pour construire un sujet lors d'une journée sur la télévision, la presse, les médias, quelque chose comme ça. Et le sujet qu'il proposait était systématiquement refusé parce que, en fait, il mettait en question des comportements d'éditocrates où il montrait des gens comme Anne Sinclair faisant la bise à Laurent Fabius et Anne Sinclair qui recevait Laurent Fabius pour la préparation d'une émission qui s'appelait 7 sur 7 et en lui demandant alors de quoi tu aimerais qu'on parle par exemple en se tutoyant, donc ça montrait une certaine proximité qui
voire après, de connivence
en effet, c'était d'ailleurs un des termes de Serge Halimi, de Pierre Karl, connivence, et personne n'aura été surpris après qu'Anne Sinclair devienne l'épouse d'un ex-futur probable président de la République, un certain Dominique, je sais plus comment. Voilà, c'est ça.
Ouais.
Donc, ce type de documentaire montrait, par exemple, François-Henri de Virieux, qui était un ancien de l'Obs, enfin du Nouvel Observateur, journal soi-disant de gauche, et on voyait François-Henri de Virieux on tutoyait Alain Madelin, qui était à l'époque à l'UDF, l'ancêtre, un des ancêtres. De l'UMP, Alain Madelin, qui est par exemple était un ancien membre d'un groupuscule d'extrême droite, Occident.
Pardon,
mais c'est la même mouvance,
oui, la même...
et à tel point que des fois à l'Assemblée nationale, chaque fois que il était un peu trop virulent, il y avait toujours des fois à l'époque dans les années 80 députés de gauche qui lui disaient écoute, le spécialiste de la barre de fer, tu serais bien avisé de faire attention à ce que tu es en train de dire. Donc voilà, mais on voyait François-Henri de Virieux, qui avait été journaliste au Monde puis au Nouvel Observateur, plaisanter avec Alain Madelin, ce qui montrait l'entre-soi de ce milieu-là.
L'idée d'Acrimed, c'est d'essayer un petit peu de montrer toutes ces connivences justement entre ces différents milieux.
C'est-à-dire de montrer, d'informer sur l'information et sur la manière dont le produit final que chacun peut découvrir, soit en ouvrant un journal, soit en consultant un site, soit en écoutant la radio, en regardant la télé, que c'est pas quelque chose, il y a pas une immaculée conception de l'information, mais qu'il y a tout un travail de production, de construction, et que ce travail est fait sous différentes contraintes ou différents biais qui sont principalement deux grands biais, et donc deux formes de dépendance, à la fois une dépendance politique et une dépendance économique.
On verra ça dans ce contexte,
voilà.
Peut-être juste avant de... Parce que là, on anticipe un peu le débat. Peut-être revenir un peu plus en arrière encore sur l'histoire de l'indépendance de la presse, que Didier citait en introduction, les ordonnances...
De 44
et du programme... Enfin, issu du programme du Conseil national de la résistance, où donc un certain nombre d'articles, issus d'ailleurs de déclarations... d'un syndicat patronal, comme on l'a évoqué, cite la liberté de la presse comme un droit inaliénable, que la presse ne peut remplir, par exemple, sa mission que dans la liberté et par la liberté. Moi, ce que je voulais savoir, c'est, en gros, que s'est-il passé, là, parce qu'entre 44 et, donc là, on parlait de 80, 90, mais il y a aussi, il y a une transformation, de ces différents articles, peut-être revenir sur le constat en tant que tel.
Oui, et l'évolution
dans le temps, sur les grandes étapes de cette transformation.
Avec une question sous-jacente, peut-être, c'est est-ce qu'aujourd'hui, du point de vue d'Acrimed, est-ce qu'on peut dire que la presse est plus dépendante ou indépendante qu'elle ne l'a été? Alors, c'est vrai que c'est une question qui est pas forcément facile, à laquelle n'est pas forcément facile de répondre. Mais quand même, est-ce que la tendance va plutôt vers une amélioration de la liberté de la presse, ou au contraire, dans l'autre sens? Non, je dis ça dans le sens où sont apparus des médias nouveaux. Bon, c'est vrai, par exemple, qu'est apparu des médias aussi importants aujourd'hui dans la sphère de l'information que Mediapart, que Rue 89. Enfin, il y a des médias du côté des médias dématérialisés qui amènent une information différente certainement de celle
ou en apparence différente sur les cas.
Des médias nouveaux et un rapport au temps totalement différent dans l'accès à l'information.
Enfin, alors voilà, peut-être que c'est peut-être ça que tu pourrais.
Alors ça fait beaucoup de choses, je vais reprendre. Alors sur l'évolution historique. Bon, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'à la Libération, Toute la presse qui sortait de cette période-là était complètement discréditée, toute la presse collaborationniste. Et du coup, en effet, il y a eu les ordonnances de 44 avec des orientations très affirmées, comme par exemple, on a publié un article récemment, enfin il y a 2-3 mois sur Acrimed justement par rapport aux ordonnances de 44. C'est Jérémy Fabre et Jean Pérez pour donner les auteurs. Dans lequel il cite les ordonnances de 44 avec des clauses du genre la même personne peut être directeur ou directeur délégué de plus d'un quotidien. Alors qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est largement battu en brèche. Ou de même que le directeur d'un journal, qui est obligatoirement son propriétaire, ne peut tirer ses principaux revenus d'une fonction industrielle ou commerciale. Ça veut dire que on appliquerait cette disposition aujourd'hui.
Bolloré, évidemment.
Bolloré, Dassault, Lagardère, tous ces gens-là n'auraient plus rien à faire.
Ils ne pourraient plus être les patrons de presse.
Voilà. Donc, ce qui s'est passé, c'est que progressivement, au cours du temps, en fait, la question des différentes formes d'indépendance ou de dépendance de la presse est un enjeu de lutte. Puisque de l'information qui est diffusée aux citoyens, de la qualité de l'information qui est diffusée aux citoyens, dépend un regard critique ou non critique des citoyens, et donc du coup des choix politiques ou des absences de choix politiques suivant la formation de leur opinion publique qui contribue à ce qu'on appelle souvent l'opinion publique. Donc la dépendance ou l'indépendance de la presse est un enjeu de lutte permanent. Et quand on voit aujourd'hui la carte de médias, et on a un collègue d'Acrimed, Jérémy Fabre, a fait une carte avec le monde diplomatique qui s'appelle Médias français qui possède quoi, quand on voit que les principaux propriétaires des grands groupes de la presse française sont les plus grosses fortunes, Bernard Arnault, Patrick Drahi, Alain Veil, Feu Pierre Berger, le toujours vivant Xavier Niel, le toujours vivant Mathieu Pigasse, Serge Dassault, nonagénaire mais toujours alerte pour posséder Le Figaro et imprimer sa direction.
Oui,
politique.
Je crois effectivement ce que tu nous dis, c'est qu'on a la différence essentielle entre la période effectivement de la sortie de la guerre, libération, et aujourd'hui, c'est qu'on a une très forte concentration finalement des médias.
Alors cette concentration des médias qu'on constate aujourd'hui, qu'on objective par le biais de cette carte, il faut savoir que la même carte, une publication sardonique comme PLPL qui s'appelait Pour lire pas lu ou Le Plan B, avait déjà publié la même carte il y a 15 ans, et en fait on se rend compte que sont apparus en effet des gens comme Xavier Niel ou Patrick Drahi, mais qu'en fait le type de propriétaire des grands groupes est toujours le même type d'individu, c'est-à-dire des gens qui appartiennent au club très fermé des amis d'Emmanuel Macron, des plus riches de France, des premières fortunes de France. Et en fait, il ne faut pas simplement s'attacher au nom des individus. Le piège, il est là. C'est voir la structure de domination de la presse française, où on a en fait, depuis 30 ans, une concentration qui est déjà présente, qui se pérennise et s'accentue. Ouais. Il y a des changements de surface, mais il ne faut surtout pas s'attarder aux changements de surface, c'est voir la structure de domination. Et d'un point de vue historique, moi j'ai envie de prendre l'exemple de la télévision. C'est un très bon outil pour analyser l'évolution d'un média, parce que quand on dit de la presse, on se rend compte que c'est très disparate comme type de support, comme on a pu en parler, la télévision, la radio, et ainsi de suite. La télévision, ce qu'il faut savoir, c'est que jusqu'en 1984 et la création de Canal+, il n'y avait que 3 chaînes de télévision, et c'était 3 chaînes de service public. La publicité est apparue sur la première chaîne de télévision en octobre 68. De même que, c'est des choses qui peuvent paraître anecdotiques, mais c'est pour voir l'évolution du paysage audiovisuel. La couleur est apparue en 67, la troisième chaîne en 72. Donc, jusqu'en 84, 3 chaînes. Propriété, établissement d'État, création de Canal+, en 84. En 1985, première chaîne de télévision complètement privée, créée sous un pouvoir entre guillemets socialiste. À l'époque, le président était Mitterrand, c'est la 5. Et la 5, à l'époque, c'était on appelait ça à l'époque un entrepreneur. C'était la période où on commençait à glorifier les gens comme Bernard Tapie, qui est toujours de ce monde encore. Si, c'est vrai. Hein. Oui. Il y avait des émissions sur TF1 qui étaient encore une télévision de service public ou qui s'appelait Ambition avec Bernard Tapie. Jean-Louis Borloo était au générique, ainsi de suite, et il n'était pas un homme politique, c'était un avocat d'affaires. Et donc, 85, création de la 5 avec Berlusconi, entrepreneur italien. En 1987, après son retour au pouvoir en 86, la droite, avec François Léotard, privatise TF1. Avec un argument gag, enfin c'est quand on y pense aujourd'hui, c'était le mieux-disant culturel. C'est-à-dire que pour justifier une privatisation au profit de l'entreprise Bouygues, qui est la major française du bâtiment et des travaux publics, François Léotard, ministre de la Culture, disait « Mais oui, mais ça va permettre d'offrir un pluralisme culturel. » On a vu ce que ça a donné depuis 30 ans, TF1. Et TF1, pendant une quinzaine d'années, avant l'apparition de la TNT, la diffusion d'Internet, a eu une situation de monopole fort. Quand on parle de TF1, Jupiter se fâche maintenant, vous l'entendez avec l'orage, mais avec un pouvoir prescripteur sur l'actualité, c'est-à-dire que on est passé avec TF1 dans les années 90 d'une situation où les journaux télévisés qui se calaient et calquaient leur une et leur ordre de présentation des informations du journal télévisé sur le journal de référence qui s'appelait Le Monde, c'est TF1 qui est devenu moteur et qui a fait que les journaux imprimés se sont calés sur l'ordre du jour de TF1, ce qui est un changement majeur.
Okay. Oui. Non, c'était juste parce que je vois le temps qui presse et je crois que Denis Siffert nous a rejoint. Je vous propose peut-être avant de reprendre la discussion de faire une première pause musicale.
Eh bien, vous êtes toujours sur 106.3 FM. Aujourd'hui, l'émission est animée par la Fondation Copernic. Et le thème est celui de l'indépendance de la presse. Nous avons commencé une large discussion avec Denis Souchon d'Acrimed. Et Denis Schiffer de Politis nous a rejoint. Bonjour, Denis.
Bonjour.
Je sais que tu as pu écouter un petit peu la fin de cette première partie,
oui.
Et je crois que tu voulais déjà commencer à réagir. Est-ce que c'est possible?
Un tout petit mot simplement parce que quand on parle de service public, effectivement c'est quelque chose qui nous plaît et qui est une valeur positive. Mais je voudrais rappeler dans quel contexte il y a eu les privatisations à l'époque de Mitterrand. En effet, comme ça a été très justement dit, à partir de 85 avec Berlusconi. Mais il faut savoir, je ne sais pas si ça a peut-être été dit avant moi, j'ai une émission en cours, donc vous m'interrompez si c'est le cas. Mais il faut savoir que moi, qui suis plutôt jeune, j'ai connu la télévision de De Gaulle, où le ministre de l'Information, Alain Perfit, venait au journal télévisé pour expliquer pourquoi il y avait un nouveau décor derrière le présentateur.
Oui, le service public n'était pas, en l'occurrence, à ce moment-là, gage d'indépendance.
Voilà, exactement. C'est ça que je voulais dire. C'est-à-dire que il n'y a pas eu non plus un âge d'or, disons, de la télévision indépendante. Et c'est au nom de ce corset, de la lutte contre ce corset politique, que Mitterrand a prétendu libéraliser, donc, et encore avec le jeu de mots sur la liberté comme toujours, et il y a eu cette floraison de chaînes, à commencer par l'épouvantable cinquième chaîne de Berlusconi, en effet, une effroyable vulgarité, mais c'est au nom de la concurrence qu'on nous a dit avec la concurrence, il y a un choix, etc. Or, on a vu très rapidement qu'en en fait, avec la multiplication des chaînes et la concurrence, on avait finalement des programmes qui se ressemblaient énormément et avec une surenchère de vulgarité pour précisément capter un public avec la publicité, etc. Alors il y a des exceptions, hein, c'est pas Arte, n'est pas même certaines émissions des chaînes de services publics sont d'une autre nature, mais même les chaînes de services publics sont tombées évidemment dans cette concurrence. Et on voit très bien donc en quoi le pluralisme, ce faux pluralisme, cette concurrence, disons, est une arnaque, puisqu'on arrive finalement à avoir avec beaucoup de chaînes de télévision je caricature un peu, mais un seul discours et un seul concept qui est entièrement dépendant de la publicité et des audiences. Hein. Je mets encore une fois Arte et puis les émissions qui sont tardives aussi, qui sont parfois bien. Bon, on a vu même Cache Investigation sur France 2. Mais dans l'ensemble, c'est quand même l'arnaque, disons, de ce faux pluralisme que je voulais dénoncer. Ça a été fait avant moi, mais aussi rappeler que avant ça et avant 68 en particulier, la télévision gaullienne était effroyablement dépendante du pouvoir politique, mais de façon caricaturale.
L'indépendance politique n'a rien à envier avec l'indépendance économique.
Voilà, absolument, absolument. Et donc on est toujours, nous tous qui cherchons à faire un journalisme ou une information indépendante, nous sommes à naviguer entre ces deux écueils, et à mon avis il n'est pas question de revenir à quelque chose qui serait étatisé ou même au nom de ce joli mot de service public qui ne serait qu'un leurre en l'occurrence. Donc il faut trouver la troisième voie, si j'ose dire.
Ouais. Je crois que Denis Souchon est intéressé pour rebondir.
Oui, alors bon, la troisième voie, il faut faire... C'est juste, parce que moi, la troisième voie, ça me fait penser à Tony Blair, mais c'est juste une parenthèse. Ça serait sûrement pas le type de voie où il faudrait s'engager. Mais on est bien d'accord, c'est... il n'y a pas eu d'âge d'or, et même après 68, en 70, Pompidou disait à propos de l'ORTF, c'est-à-dire à propos de toutes les radios...
C'est la voix de la France.
Voilà, c'est la voix de la France, ouais. Donc il faut en effet se souvenir de ça, et en effet, le problème et le sujet de l'indépendance de la presse, c'est cette double dépendance variable dans le temps, soit par rapport à l'État, soit par rapport à l'économie, et la plupart du temps par rapport à ces deux types de dépendance. D'ailleurs, là-dessus, on a un des membres d'Acrimed, un sociologue, Patrick Champagne, qui a écrit un petit bouquin il y a 2 ans, qui s'appelle justement « La double dépendance sur le journalisme » et qui montre que cette double dépendance fait que les journalistes, pour pouvoir exercer leur métier, sont en permanence soit en train de composer avec ces deux formes de biais qui ont des effets très puissants sur ce que l'on peut dire ou ne pas dire, soit tout simplement collaborent comme les éditocrates qu'on a pu voir dans le film Les Nouveaux Chiens de Garde, où on a toute une série de personnes qui, en effet, au nom du pluralisme, Alain Duhamel, Laurent Geoffrin, François-Olivier Gisbert, Yves Calvi, sont en permanence en train de dire « Mais regardez comme on est pluraliste, on est plusieurs autour de la table », alors qu'en fait, ce sont toujours non seulement le même groupe d'une vingtaine d'individus qui se relaient dans les différentes émissions, mais en plus, toute une série d'individus qui ont à peu près le même discours sur les enjeux majeurs de société. Après, sur la question de l'orientation des différents médias, je pense qu'il faudra mettre aussi en question eh bien, tout simplement la formation des journalistes, la manière dont un journaliste apprend son métier. Par exemple, il y a un petit livre qui est sorti maintenant, il y a une quinzaine d'années, quelqu'un qui est devenu député, François Ruffin, c'était « Les petits soldats du journalisme », qui montrait très bien que, en fait, les écoles de journalisme, et même les plus réputées comme celles qu'il avait pu faire, étaient d'abord des écoles où on cadrait la curiosité des journalistes, on leur faisait intégrer ce qui est perçu comme quelque chose d'inévitable, à savoir le fait de toujours devoir travailler dans l'urgence, de ne pas prendre le temps d'enquêter, alors que pour produire une information de qualité, justement, il faut savoir prendre des jours, voire des semaines pour creuser un sujet à fond. Donc ça veut dire ne pas être en permanence sous des contraintes de temps, même contraintes de temps qu'on retrouve même des fois dans des radios associatives. Mais c'est une chose qu'il faut dire parce que sinon, derrière, on est toujours dans le culte de l'immédiateté. Et quand on est dans l'immédiateté, on ne comprend plus rien.
Alors peut-être on va y revenir après sur un nouveau modèle de presse et les actions à mettre en place. Denis Siffert, du coup, je réagis sur cette double indépendance. Peut-être vous pouvez nous expliquer un peu le modèle économique de Politis. Il me semble que vous n'avez pas de chantage à la publicité dans votre journal.
Non. En effet, mais je voulais aussi dire un petit mot quand même sur les écoles journalistes parce que. Il y a une autre. L'idéologie passe par beaucoup par la technique. C'est rarement affiché comme étant politique. Ça ne l'est même jamais. C'est toujours technique et avec une fausse déontologie qui est souvent celle de l'objectivité. Et ça, je crois qu'il faut vraiment dire ces choses-là. C'est-à-dire que l'objectivité qu'on enseigne souvent aux apprentis journalistes, c'est celle que Godard décrivait très bien quand il disait c'est 10 minutes pour les juifs et 10 minutes pour les nazis, hein. C'est-à-dire on donne toujours une sorte d'équilibre, ce qui est une paresse intellectuelle par ailleurs, c'est de pas aller chercher qui dit la vérité ou qui est le plus proche de la vérité, et on renvoie dos à dos. Et là on fait une sorte de tambouille qu'on envoie, disons, aux téléspectateurs, aux auditeurs ou aux lecteurs, et à eux de se débrouiller. Et très souvent en plus, il s'agit de mettre face à face des gens qui, en effet, ont des divergences, mais ont une base culturelle qui est la même, et qui, en gros, souvent, sur les questions économiques, parce que c'est là-dessus que c'est le plus sensible, sont des libéraux. Et puis, par ailleurs, ce qu'on peut dire aussi, c'est que l'écueil politique et l'écueil économique ont, hélas, tendance à se rejoindre. Et c'est très spectaculaire avec Macron, hein, puisque finalement, on a une sorte de privatisation de la politique avec des politiques qui transforment plus ou moins, et même plutôt plus que moins, les institutions ou prétendent le faire. En tout cas, c'est pas encore le cas, tout à fait. Mais finalement, en conseil d'administration. Et donc, les intérêts politiques et économiques étant totalement liés, ce qui était moins le cas, en effet, dans la période précédente, je le dis époque gaullienne ou pompidolienne, c'était moins le cas. Aujourd'hui, il y a une sorte de fusion et de confusion entre l'économique et le politique qui rend la tâche, en effet, des journalistes qui veulent être indépendants très difficile. Alors, quant au modèle économique, je sais pas, modèle économique, c'est un peu prétentieux, donc on n'a rien inventé. On a tout simplement, nous, un actionnariat majorité à 66% qui est entre les mains d'une association qui s'appelle Sobrement pour Politis et qui réunit des lecteurs. Donc il y a une assemblée générale chaque année de cette association et les salariés de Politis. Et au sein de laquelle, au sein du conseil d'administration de cette association, les salariés de Politis sont majoritaires. C'est-à-dire que nous sommes, disons, garants de notre propre indépendance. Mais les lecteurs sont, et c'est les lecteurs qui ont la présidence actuellement de l'association, sont évidemment très, très influents et c'est notre actionnaire principal. Voilà. Alors nous avons par ailleurs quatre autres actionnaires qui sont des lecteurs qui à titre privé à un moment donné en 2006 puis encore là en 2016 ont mis un peu plus d'argent, disons, que la moyenne des lecteurs en soutien à Politis, mais qui n'interviennent absolument pas dans voilà le modèle économique est celui-là et donc c'est cette association qui mêle à la fois des lecteurs et les salariés qui est le garant pour nous de notre indépendance capitalistique, si j'ose dire. Après, il y a d'autres problèmes d'indépendance. On aura l'occasion peut-être d'y revenir tout à l'heure.
Oui, je pourrais peut-être poser une question d'ailleurs à vous deux. Peut-être tu peux reprendre la parole, Denis Siffert, si tu veux bien. Mais tout à l'heure, tu parlais effectivement d'indépendance et d'objectivité de la presse. Politis n'est pas un journal objectif, si j'ose dire, au sens...
Non.
Voilà. Et peut-être qu'on pourrait essayer de détailler cette question de l'objectivité et versus la présentation des faits bruts, enfin, ou la présentation des faits interprétés. Comment est-ce qu'on peut discuter cette question d'indépendance de la presse, parce qu'il serait trop facile de dire indépendance de la presse égale objectivité.
Absolument.
Est-ce que la presse doit donner son avis, en gros, quoi?
Je peux embrayer là-dessus.
Oui, on donnera la parole.
Mais moi, j'ai été longtemps en agence de presse, hein, et donc je sais quelque chose que je crois que finalement beaucoup de journalistes qui ne sont pas passés par là ne savent pas, c'est que on reçoit des centaines et des centaines d'informations par jour et on en met les 9 dixièmes à la poubelle et on décide de l'ensemble de journalistes au desk, au bureau, etc. Décide de sélectionner des informations qui vont aller ensuite dans les grands médias. Donc déjà, dès le départ, le choix,
il est de l'AFP, évidemment.
Il est malhonnête, hein, il peut être tout à fait... mais donc la neutralité et donc cette objectivité-là n'existe pas. C'est une imposture. Et ce que je voudrais dire aussi, c'est que nous sommes catalogués journal d'opinion. Et c'est un piège à certains égards. Moi, je considère que l'Express, Le Point sont aussi des journaux d'opinion. Mais ils ne s'affichent pas comme tels. C'est-à-dire que au moins nous, d'une certaine façon, nous et quelques autres, on a l'honnêteté de dire voilà d'où on parle. Mais eux prétendent précisément, ce sont des news, n'est-ce pas ? C'est-à-dire ils donnent des informations. Et évidemment, là, c'est une imposture. Et ça nous pénalise énormément, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas au fait de toutes ces choses-là, qui pensent que quand on est un journal d'opinion, eh bien, on ne peut pas rechercher la vérité. Je ne dis pas donner de dire la vérité, parce que je ne suis pas sûr de pouvoir dépositer, en tout cas, se battre pour s'en approcher le plus possible. Et alors que les news, eux, sont réputés, n'est-ce pas, donner des faits bruts, etc., des informations objectives, etc. Et là, on a déjà une sorte de pénalité initiale pour tous les journaux qui sont catalogués comme tels.
Denis Souchon ?
Oui, moi, je voudrais compléter et rebondir par rapport à cette question de ce qu'on peut appeler la rhétorique de l'objectivité, c'est-à-dire qu'en effet, on a des spécialistes, des journalistes, ou des, entre guillemets, journalistes qui sont spécialisés dans le maniement de cette rhétorique de la neutralité. Un exemple fameux, c'est Alain Duhamel, qui depuis plus de 40 ans, je pense que 90% de nos auditeurs n'étaient pas nés quand Alain Duhamel...
Pardon, mais j'entends presque plus, là, comme je suis au téléphone.
Peut-être se rapprocher.
Oui, je disais oui. Donc, je parlais d'Alain Duhamel, qui depuis plus de 40 ans, la télé était encore en noir et blanc. On le voyait déjà se dandiner sur sa chaise en posant ses questions plus ou moins tronquées. Et moi, je vais prendre deux exemples sur cette fausse ou cette rhétorique de la neutralité ou de l'objectivité. On a fait une analyse à Acrimed sur, par exemple, les experts, les économistes invités par le journal Le Monde à s'exprimer sur 3 mois en 2015, entre janvier et mars. Et on a vu que sur 75 invitations de journalistes, d'économistes, on en avait 71% qui étaient membres de banques, de grandes entreprises ou de la BCE. On avait une dizaine de pourcents qui étaient dans l'économie libérale ou néolibérale et seulement 5% de points de vue critiques. Or, la présentation du Monde les responsables du Monde diront, mais regardez, on interview plein de gens très différents les uns des autres. Sauf que ce qu'ils oublient de dire, c'est que tous ces gens ont des caractéristiques communes qui vont dans le même sens de la défense des mêmes intérêts. Autre exemple sur cette rhétorique de l'objectivité, et je vais remonter un peu en arrière dans le temps. En 2005, il y a eu un référendum sur le traité de constitution européenne. À l'époque, 95% des éditorialistes de la presse française, Denis Sieffert, je pense, sera d'accord avec moi, 95% des éditorialistes roulaient pour le oui en permanence. Le non l'a emporté à 55% des votants. Et à l'époque, j'avais fait une étude pour un journal qui s'appelle Le Plan B. J'avais analysé sur les 4 grandes radios, à savoir France Inter, Europe 1, RMC et RTL, les invités politiques des matinales des 6 mois postérieurs au référendum de 2005. Eh bien, il se trouve que 80% de ces invités étaient des gens, des invités politiques, étaient des gens qui avaient appelé à voter oui. C'est-à-dire que même quand on fait une consultation populaire, que le verdict est sans appel, les médias dominants considèrent qu'ils sont dans leur bon droit en continuant à nous servir toujours la même musique libérale ou pro-capitaliste, tout simplement, parce que libéral, en effet, il y a une espèce d'enfumage lié au terme de liberté, comme on le disait tout à l'heure. Mais donc, on voit que même quand il y a exceptionnellement, on demande à ce que les médias appellent le peuple de se prononcer, même quand ça arrive, si ça ne va pas dans le sens qu'ils souhaitent, c'est pas pris en compte.
Oui, tout à l'heure, Denis Siffert, on a engagé une petite discussion qui n'a pas abouti et j'aimerais bien qu'on la reprenne peut-être. C'est tout de même l'apparition dans le champ des médias de nouvelles formes, en particulier via Internet. Est-ce que évidemment, on pense assez facilement à Mediapart, on pense aussi à Rue 89. Est-ce que, pour toi, l'apparition justement de ces nouveaux médias à côté des médias traditionnels type presse papier ou bien télévisuel, est-ce que ça a quelque part un peu transformé le rapport à la dépendance des médias en général?
Oui, je pense que c'est, il y a pour beaucoup d'entre eux, bon, c'est une banalité de dire que sur Internet, il y a à boire et à manger, si j'ose dire, et des choses dont il faut se méfier, et il y a beaucoup de d'enfumage aussi, donc il faut être très prudent, mais les sites, disons, qui ont vraiment opinion sur rue, le meilleur exemple, c'est évidemment Mediapart, il y a eu Rue 89, et il y en a quelques autres, je pense à des médias qui sont moins connus du grand public, comme Basta, comme Reporter, qui fait un très bon travail sur l'écologie, etc. Bon, je pense que ça apporte beaucoup parce que, d'une part, ils ont un autre rapport avec leur lecteur, et puis bon, ils sont des outsiders, c'est-à-dire qu'ils cassent un peu le jeu en vase clos des grands médias. Bon, d'ailleurs, Politis, on est un journal qui a commencé en 88, on va fêter nos 30 ans bientôt par le papier, mais on a un site aussi très actif et qu'on développe de plus en plus. Et évidemment, on a un autre rapport avec les lecteurs à partir de ce nouveau média, si j'ose dire. Donc, on voit quand Mediapart, on a d'une part par les enquêtes qu'ils font, et puis aussi par l'ouverture à des blogs. Donc, il y a un foisonnement, disons, d'idées, de débats qui, incontestablement, fait respirer la démocratie, hein, ce qui n'était pas le cas avant. Donc ça, c'est un apport. Maintenant, il y a aussi probablement pas mal d'imposteurs et de sites qui peuvent en fait passer de la propagande sous le couvert d'une information libre, citoyenne, etc. Et donc c'est évidemment très très redoutable.
Voilà. Denis,
oui, sur Internet, bon, déjà j'aurais une pensée, enfin ça m'inspire une pensée émue pour Alain Delon. En fait, ça me fait penser au Guépard, la fameuse phrase, on va tout changer pour que rien ne change. Et en fait, Internet semble pouvoir permettre ce genre de choses. Je m'explique, c'est que, en effet, maintenant, on consulte et on s'informe de plus en plus via ou sur Internet. Mais la structure de l'offre d'information sur Internet reproduit la structure de domination de la presse française. Et je vais prendre un exemple récent. Un individu dont vous avez peut-être entendu parler, Bruno Roger Petit, s'est distingué tout au long de la campagne électorale en faisant des éditoriaux enflammés en faveur d'Emmanuel Macron. Lequel Emmanuel Macron, lorsqu'il est devenu président de la République, a appelé à ses côtés comme porte-parole en fin août le dénommé donc Bruno Roger Petit. Or, voilà, Bruno Roger Petit intervenait sur Internet, donc nouveau support, encore que Internet maintenant date d'il y a 20 ans, au même moment qu'Acrimed. On est apparu à peu près en même temps, donc c'est pour ça qu'on s'en souvient bien. Mais donc voilà, c'est le fait que Internet soit là ne change pas la structure des pouvoirs sur la presse française, ce qui se vérifie de jour en jour. Et donc quand on consulte cette presse française, en effet, Internet est maintenant le premier moyen d'accès, mais avec la reproduction de l'offre antérieures que l'on pouvait trouver soit sur papier, soit dans l'audiovisuel.
Alors j'apporterai quand même un petit bémol à ça. Bien sûr, il y a, ça existe, c'est tout à fait juste, mais Internet présente quand même cette caractéristique d'avoir d'autres impératifs financiers ou de moindres impératifs financiers. Je sais que si aujourd'hui on devait créer Politis, on irait souvent uniquement sur le web et on ne ferait pas du papier. C'est-à-dire que je peux vous assurer que le budget papier, le budget imprimerie, le budget poste qui est de plus en plus lourd, disons, analyse énormément cette presse-là. Donc, le fait qu'on puisse quand même créer un média avec, au point de départ, des besoins qui sont moindres du point de vue financier, ça, c'est quand même un espace de liberté qui se crée. Après, évidemment, les gens en font ce qu'ils veulent, et parfois le pire, j'en conviens. Hein, mais ça, c'est quand même potentiellement, en tout cas virtuellement, une donnée nouvelle qui peut en effet permettre de se libérer au moins des impératifs capitalistiques les plus lourds, parce que créer un journal, sauf si on veut être hyper confidentiel, ce qui est en général le vœu de personne, c'est extrêmement lourd et ça l'est de plus en plus avec le renchérissement du papier, avec et je vous dis pas, enfin tous les quand on nous annonce que le papier augmente de 3% au mois d'octobre et d'un seul coup tout un budget prévisionnel vole en éclats et c'est très très dur à supporter et c'est évidemment le journalisme qui en paie les conséquences parce que c'est des enquêtes qu'on aura plus de mal à faire, c'est des reportages qu'on aura plus de mal à faire, c'est aller sur le terrain qui sera plus difficile, etc. Donc voilà. Donc mais malgré tout, c'est quand même c'est potentiellement une porte qui s'ouvre, une porte de liberté qui s'ouvre.
Peut-être que ton intervention nous permet d'avancer sur le troisième thème, puisque malheureusement le temps tourne. Il nous reste quelques minutes maintenant, et à peine une minute pour conclure. Justement, on avait annoncé qu'on avait une troisième partie un peu dans notre discussion, qui était finalement quel modèle alternatif, quoi. Est-ce que j'entends de ton propos que le modèle, alors modèle économique, modèle journalistique, alternatif, passerait quelque part aujourd'hui de manière assez logique et incontournable par le web?
Moi, je pense que oui. Enfin, je pense qu'il y aura toujours du papier. Enfin, toujours et jamais, ce sont des idées un peu romantiques, mais je pense qu'il y aura très longtemps encore du papier. Je crains quand même que le papier devienne un produit de luxe, disons, bon, avec des revues de grande qualité, des MOOC, etc. Il y en a déjà qui font d'ailleurs du grand reportage, qui font d'excellents boulots. Mais j'ai peur que ce soit quand même des audiences un peu confidentielles. Et ce sera probablement le web qui sera le média de masse parce qu'il est financièrement plus accessible. Mais c'est un peu comme la langue d'Ésope, on en fait le meilleur ou le pire. Évidemment, c'est pas ça peut être un modèle économique, mais ça ne résout pas le problème, disons, ni de l'indépendance, ni de. Mais je voulais dire un mot. J'ai une minute encore sur la question de l'indépendance, parce que on n'a pas évoqué la question de l'indépendance politique. Oui. Et je vais peut-être un peu mettre les pieds dans le plat, mais. Nous, on est très indépendants des pouvoirs économiques et gouvernementaux, politiques, institutionnels, disons. Bon, et on le paye très cher, mais on est heureux de le payer parce que c'est notre choix. Et on a toujours dit qu'on mettrait plutôt la clé sous la porte plutôt que de se vendre à qui que ce soit de ce genre. Mais par contre, on a parfois discuté avec nos amis. Il faut le dire. Hein. Moi, ça m'est arrivé d'avoir des soucis parce que je critiquais Mélenchon sur la Syrie. Et d'être pénalisé par certains lecteurs qui se désabonnent, etc. Bon,
l'indépendance est un combat.
Et d'avoir des choses qui sont très très désagréables à entendre pour ça. Et là-dessus, et donc je veux dire que l'indépendance virginale n'existe pas. On est toujours j'ai coutume de dire que nous sommes dépendants de nos lecteurs et que c'est la meilleure des dépendances. Ce n'est pas absolument une indépendance et on est obligé de penser à ça et même nos amis parfois sont difficiles à gérer parce qu'il y a toujours l'envie disons d'avoir un journal à soi et d'avoir un journal captif et qui est une ligne et tout ça et moi je répugne et fait toute l'équipe de politique c'est fondé disons sur le refus de ce dogme.
Denis Soussan.
Oui, donc sur la possible et surtout souhaitable de notre point de vue transformation des médias. Pour que cette transformation puisse s'opérer, il faut qu'elle puisse être à l'agenda politique dans les premières positions. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose de décoratif, d'accessoire. C'est capital pour la structuration de la vie politique, puisque la manière dont les gens sont informés retentit sur la formation des opinions et donc à partir de là sur les choix que les gens peuvent faire. Donc, pour que cette transformation puisse commencer à s'opérer et à titre de condition de possibilité de ces transformations, il y a le fait que les citoyens soient formés et soient actifs en termes de critique des médias. C'est-à-dire que, en effet, quand ils voient Valérie Saint-Cricq sur France 2, ils ne s'imaginent pas que c'est quelqu'un qui est tombé du ciel et qui n'est là uniquement que par ses compétences, alors que elle fait partie de la famille Saint-Cricq, qui est propriétaire et actionnaire principal du groupe NRCO, très actif dans la presse comme La République du Centre, La Nouvelle République, Centre Presse et ainsi de suite, donc qui est déjà très installée dans le monde de la presse. Donc, et cette formation, cette acquisition d'une vision.
Patrick Duhamel, frère d'Alain.
Patrice Duhamel, tout à fait, voilà. Et qui a été patron de France 2. Donc, il y a un entre-soi et une phénoménale dans ce monde-là. Et pour que cela soit perçu, connu, eh bien, il faut œuvrer inlassablement, jour après jour, comme Acrimed le fait depuis 20 ans, comme d'autres médias, tentent de le faire aussi de leur côté pour éclairer ceux qui nous connaissent sur bien ce que ils n'ont pas comme information de la part des justement de ceux qui sont supposés informés. Et tant que cette condition de possibilité ne sera pas remplie, la question de la transformation des médias sera une question très difficile à mettre à l'agenda. Et pourtant. Complètement nécessaire.
C'est un rôle primordial en fait du lecteur dans son analyse critique, quoi, finalement.
Et dans la formation de son opinion, de ses choix politiques qui en découlent. Mmh. Et ce qui veut dire que derrière, ça veut dire en termes d'offres de pluralisme, c'est qu'il faut éclairer. En effet, j'ai cité l'exemple du Monde sur la manière dont les politiques économiques sont présentées. On pourrait prendre le même type d'exemple sur France Inter, par exemple les invités de Léa Salamé. Les invités de Léa Salamé, on a 25 fois plus de grands patrons que d'employés ou d'ouvriers invités par Léa Salamé il y a 2 ans dans son interview matinale.
On va devoir laisser l'antenne. J'en profite pour remercier encore nos deux invités, Denis Souchon, d'Action Critique Média, et Denis Siffert par téléphone, donc directeur de publication de Politis. Merci aussi à Claude, à la technique, ce soir. Donc vous pourrez écouter l'émission mercredi matin à 7h30. Sinon, vous pouvez aussi la podcaster à la fois sur le site de la Fondation Copernic, mais également sur le site de l'émission de radio Mode d'Emploi. Et nous vous quittons en musique. Merci.
Merci à vous. Bonsoir.